Bonjour et merci d'être là. Comme vous le savez, depuis maintenant, peut-être 8-9 ans, je n'ai plus le décompte des années, les Imaginales font un coup de cœur, ou donnent un coup de cœur à un auteur. Ce n'est ni Philippe Curval, Pierre Bordage, enfin les grands anciens, ceux qui depuis 20 ou 30 ans creusent le sillon d'un talent multiforme et nous donnent le plaisir de découvrir leurs livres. Ce ne sont donc pas des auteurs installés. Ce ne sont pas non plus des auteurs d'un seul roman, d'un premier roman. Ça arrivera peut-être un jour, mais je ne l'ai pas encore fait. Même si j'avais déjà hésité avec Le Manèche, le premier roman de Stéphane Plateau. Mais ce sont des auteurs dont le premier, le second, troisième éventuellement, livre nous font dire « ça y est, on a une voix, on a un écrivain, on a quelqu'un qui apporte quelque chose, qui apporte sa conception de la littérature et qui nous plaît assez pour dire, dans cette diversité de nos littératures, Stéphane Plateau, voilà, une des voix qu'on reconnaît, nous, à Épinal, aux Imaginales. Et donc, en donnant notre coup de cœur à Jaworski autrefois, en le donnant aujourd'hui à Stéphane Plateau, on dit, voilà, parmi d'autres, bien sûr, on n'a pas une logique d'école, on n'est pas sectaire et fermé à toutes ces différences qui s'expriment au festival, mais en tout cas, la fantaisie qu'écrit Stéphane Plateau, elle nous dit bien, elle nous parle, et c'est exactement le type de littérature qu'on aime, et que j'espère vous aimez. On a donc une cinquantaine de minutes pour faire un peu plus connaissance avec Stéphane et ses ouvrages. Et je peux dire sans révéler grand-chose que lorsque j'ai lu le premier de ce qui devait être une trilogie qui sera finalement une tétralogie, l'ampleur du vrai cycle, à l'américaine au bon sens du terme, Les Sentiers des Astres avec ce premier tome Manèche, j'ai tout de suite su que Stéphane Plateau serait coup de cœur des Imaginales. Après, je ne savais pas si c'est en 2016-2017. On a dit à son éditeur, si on a le deuxième de la série en 2016, ce sera 2016, sinon 2017. Il a terminé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas dans l'anthologie du festival. Le pauvre, on l'a fait d'année les uns et les autres. Et finalement, le livre est sorti. Il va d'ailleurs nous en lire quelques extraits. Tu vas nous en lire quelques extraits de façon à entrer dans ce second tome. Shakti, puisque chacun a le nom d'un personnage, en quelque sorte.
C'est ça, donc.
C'est mieux avec un micro. C'est beaucoup mieux.
Voilà, là, il est plus muté. Voilà
c'est ça. C'est parfait.
Oui, donc dans chacun des tomes, effectivement, il y a un des personnages de l'expédition qui va se raconter. Je vais tousser, je vous préviens. Bon, donc dans le principe de la saga, c'est qu'on va suivre l'expédition du capitaine Rana et de ses hommes à travers la forêt boréale à la recherche d'un légendaire oracle, le roi d'Iseur. Et que dans chacun des tomes de la tétralogie, il y a un des personnages à bord qui va expliquer ce qu'il fait là. On a des personnages qui sont assez énigmatiques, qui ont vraiment leur part de mystère. Et c'est vrai qu'on n'est pas nombreux. Qui n'a pas lu, en fait ? Deux personnes ? Trois personnes ?
Cinq.
Okay. On peut expliquer. Donc, en fait, c'est... Donc le capitaine Rana qui emmène ses hommes sur ce bateau, sur le fleuve. Donc, c'est un peu la remontée... d'un fleuve sauvage dans la forêt boréale, c'est un peu l'Alaska, et ils doivent remonter à bord d'un bateau qui est une sorte de péniche médiévale, une gabarre, qui est inspirée d'ailleurs de la navigation de Loire. Et en soi, c'est déjà tout un périple. Ça se passe sur fond de guerre civile. On est loin du pays en guerre. On va parler de la guerre civile quand même. Et les personnages que l'on suit sont un parti d'hommes appartenant au camp qui perd la guerre civile. Ils sont à la recherche d'un légendaire oracle, le roi d'Iseur, dont ils espèrent qu'il leur permettra d'une façon ou d'une autre de sauver leur patrie, de renverser le sort des armes. On ne sait pas comment au début, pourquoi, parce que notre narrateur, qui est le barde de l'expédition, est un petit cachotier, qu'on est en guerre, et ami lecteur, il ne te connaît pas encore, il ne sait pas s'il peut te faire confiance, donc forcément, il garde ses secrets au début, voilà, secrets militaires. Et puis voilà, à bord du bateau, il y a d'autres personnages qui sont mystérieux, donc le capitaine Rana lui-même est un petit peu mystérieux, et on sent bien qu'il cache des choses même à son ami le barde. Notamment, on se demande pourquoi il a jugé bon d'emmener à bord une femme, la courtisane, et sa gamine de 8 ans. Qu'est-ce qu'elles font là au milieu des guerriers, des bateliers ? C'est aussi un personnage énigmatique. Et puis, ils vont, au début du premier tome, recueillir un blessé qui dérive sur le fleuve, sur un radeau de branchage improvisé, les deux jambes brisées. Et voilà, qui est-il ? Que fait-il là à des milles et des milles de toute civilisation ? Donc voilà, il y a une série de personnages à bord qui sont mystérieux, qui ont leur part d'étrangeté. Et dans chacun des tomes, il y en a un d'eux qui va raconter ce qu'il fait là. Et ce faisant, en fait, il va raconter quelque chose de beaucoup plus long. Son parcours de vie, c'est la suite d'événements qui l'a amené là. Et évidemment, ça se rattache d'une façon ou d'une autre à l'intrigue principale et ça crée un puzzle.
Justement, pour entrer dans l'œuvre de Stéphane Plateau, le plus simple, et c'est ce qu'on fait quand on a un seul invité, on prend un peu de temps, on lit quelques extraits tout au long de cette rencontre. Je remercie tout particulièrement Céline Edgar, qui à la fois est auteure elle-même, déjà de plusieurs romans, modératrice, et qui en plus a la gentillesse pour le coup de cœur de nous faire quelques lectures. Merci.
C'est un grand plaisir, un honneur à chaque fois. Donc commençons avec l'Oedipe de Fintan Calatine. Le vieux Framard s'échappe de ses songes. Serpent languide, il s'étire dans son lit de terre froide. Peu à peu se réchauffent ses entrailles engourdies, son échine fourmille de craquements. Au-dessus de lui, le ciel a basculé, évacuant les étoiles. Alors le vieux Framard sait que le temps est venu. Il inspire, bande son souffle, brise le sortilège et lance ses bras argentés à travers le Vientrir sur des mille et des mille de forêts boréales. Dans un silence immuable s'écoulent ses eaux. On pourrait entendre respirer les arbres. Ainsi débute mon chant, par l'éveil du fleuve à la fissure de l'hiver. Des morceaux de glace se détachent de ses berges, ses flots se gonflent du produit de la fonte, sa panse s'arrondit et devient navigable. Et, tandis qu'il chevauche le nord, la forêt tout entière reprend vie. Des ombres muettes se préparent à ranimer leur vieille chasse. Les esprits prisonniers de la terre gelée s'en échappent en sifflant pour sinuer le long des racines. Puis, un certain jour de printemps, le vieux fleuve s'avise de nous offrir un présent. Aux premières brumes matinales, il charrie dans ses doigts glacés un homme aux jambes brisées qui dérive, fiévreux, sur un entrelac de branches au milieu du courant. Bien que le ciel soit clair, il est encore très tôt. Dans ce pays, en cette saison, la nuit ne fait qu'effleurer vos paupières, à peine un battement d'heure. Sur la grande gabarre amarrée à la rive, tout le monde est encore endormi, à l'exception de Varagouin, le batelier, qui, comme toujours, promène ses insomnies sur le pont. C'est donc lui qui le voit venir en premier. C'est un spectacle étrange, un présent très incongru. Vautré sur une fourche de bois blanc, le blessé est sans connaissance. Ses vêtements flottent autour de lui, en lambeaux. Son visage est couvert de sang séché, au point que, de loin, il apparaît noirci et craquelé, comme le trognon d'un brûlé. Lorsqu'il est certain de ce que ses yeux voient venir, Varagouin ulule ce cri qui nous tire du sommeil, un long appel vibrant de marinier. Puis, sans attendre, il se noue une corde autour de la taille et il saute par-dessus bord.
Ça démarre, alors, c'est très étrange si on observe bien le texte, c'est que le début du roman, c'est à la fois une certaine lenteur, une écriture, on entre dans un monde et pourtant il se passe tout de suite quelque chose d'extrêmement fort. Comment vous arrivez à faire ça, Stéphane Plateau ? D'habitude, c'est un peu l'un ou l'autre.
Alors, je pense qu'il y a avant tout l'inspiration de la poésie orale. Comme mon narrateur est un barde, j'avais souhaité retrouver vraiment le langage des bardes, me plonger dans la poésie orale. Et donc, je suis allé relire à voix haute, d'ailleurs, le Kalevala, qui sont les mythes finnois, qui sont parmi les derniers qui ont été mis par écrit au XIXe siècle. Et donc, je me suis vraiment imprégné de ça. Et bon, on l'a lu à voix haute, en compagnie de harpistes. On a vraiment essayé de retrouver la magie de la poésie orale. D'ailleurs, on pensait lire une heure, on s'est rendu compte qu'on avait lu 3 heures et plus de 120 pages de vers, comme rien, parce que ça crée vraiment une sorte de transe due aux rimes, due à la richesse du langage, à la beauté des sonorités de la langue, etc. Comme je suis musicien, ça me parle beaucoup. Et donc, j'avais aussi noté des caractéristiques de cette façon de parler, notamment de donner beaucoup vie aux objets, d'être très charnel, de donner vie aux forces de la nature. Et donc, c'est un peu ce que j'ai fait ici avec le début du roman, où on a l'impression qu'on parle d'abord d'un monstre endormi, de vieux Framard, avant de découvrir qu'il s'agit en fait du fleuve qui se réveille au dégel, et puis qui connaît ses premières crues. Et puis la navigation sur le Framard se fait quand les crues commencent à diminuer, parce qu'il s'agit de remonter le courant. On ne peut pas le faire si le fleuve est gelé, on ne peut pas le faire si le fleuve est à sec, on ne peut pas le faire si le fleuve est en crue. Donc ils ont vraiment une fenêtre de tir très, très étroite quand les crues commencent à diminuer au milieu du printemps.
Quand vous avez décidé d'écrire un roman aussi important qu'est évidemment ces Sentiers des Astres, avec ce premier tome Manèche, qu'est-ce qui a été votre inspiration ? On devine là déjà la poésie orale. C'est quoi les mythologies dont vous êtes inspiré, Stéphane Plateau ?
Alors, je suis inspiré de potentiellement toutes les mythologies. Évidemment, j'ai des racines européennes, donc je suis pas mal imprégné des mythes grecs, romains, celtique, une racine celtique germanique, inspirée des mythes scandinaves. Mais alors j'ai une corde assez particulière à ma lyre, c'est à mon sitar même, c'est la mythologie hindoue. Ayant vécu en Inde à une période cruciale de mon existence, entre 4 et 6 ans, j'ai vraiment été biberonné au Ramayana, au Mahabharata et à tous les grands mythes hindous. Et je suis revenu en Belgique à m'installer en compagnie d'une pile de bandes dessinées mythologiques indiennes en anglais qui m'ont vraiment permis de plonger dedans. Et voilà, donc ça m'a fort inspiré aussi. Ça a marqué non seulement la mythologie de mon monde, mais ça a aussi marqué la mentalité de ses habitants.
Pourquoi la fantaisie ? Parce que quelque part, on peut aussi s'inspirer de mythologie en écrivant du fantastique, plutôt de la science-fiction d'ailleurs. Pourquoi le choix de la fantaisie ? Qu'est-ce que ça vous apportait à vous, écrivain, ce genre particulier ?
Alors, je pense que ça s'est imposé naturellement par mon parcours. En gros, quand on est écrivain, on raconte souvent des points de convergence de nos lignes d'inspiration. Il y avait forcément l'Inde, il y avait mes lectures mythologiques depuis que je suis gosse, et puis il y a mon parcours d'historien aussi. Donc, tout à l'heure, on m'a posé la question, pourquoi est-ce que vous n'écririez pas de la science-fiction ? Oui, volontiers, mais je ne suis pas encore prêt. Je n'ai pas une formation scientifique. Je lis beaucoup de magazines de vulgarisation scientifique. J'élabore des idées, je réfléchis à l'avenir, mais je pense que j'ai encore un bon temps de retard sur pas mal d'auteurs présents ici. Donc, le jour où je serai prêt, et puis surtout, j'aurai fini ma saga parce que j'ai encore beaucoup de boulot devant moi. Pourquoi pas ? Bonjour, monsieur le maire. J'en profite pour vous remercier pour ces merveilleuses imaginales.
Il me semblait aussi important, quand on pose la question sur une œuvre aussi importante que la vôtre, Stéphane Plateau, c'est de se demander, même si évidemment c'est les deux, vous allez sans doute me dire, qu'est-ce qui l'emporte dans la construction de cet univers ? Est-ce que c'est d'abord l'histoire, une histoire riche, on a bien vu, une guerre civile, qui est vue par l'intermédiaire des personnages ? Elle n'est pas décrite, clairement, on n'y est pas. C'est en fait ces personnages, on sait que c'est dans cet enjeu-là qu'ils sont en train de remonter le fleuve. Est-ce que c'est d'abord l'histoire, la construction, ce que vous voulez nous raconter, ou comme disent nos amis anglo-saxons, character first, les personnages d'abord ?
C'est un peu tout, hein. Mais oui, les personnages ont une énorme importance, c'est vraiment leur histoire qui prime leur parcours de vie dans une toile de fond. Alors la toile de fond m'intéresse beaucoup aussi, évidemment, c'est... Cette guerre civile, j'ai des dizaines de pages de notes derrière qui sont cachées, dont je n'ai vraiment montré que le sommet de l'iceberg. Vraiment, j'en ai montré en fait très peu. Donc, y a vraiment tout un univers derrière, mais je ne peux pas déborder dessus parce que je raconte avant tout l'histoire des personnages et d'expéditions. Donc, je la livre par petites touches. Je pense qu'on rentrera plus de plein pied dans cette guerre civile dans le troisième tome. Mais pour le moment, voilà, je l'effleure. Donc, il y a la toile de fond, il y a l'univers, il y a sa mentalité. C'est des forêts, des villes qui deviennent des personnages en soi. Mais ça reste avant tout les personnages humains. Et en particulier, tous les personnages sont un peu sur pied d'égalité dans ma saga. Il n'y a pas un héros qui ressort du lot. Même Manesh qui est un peu au centre du premier tome, même Shakti qui est au centre du deuxième et en partie du troisième, sont des personnages qui ne peuvent pas prétendre être le héros ou l'héroïne du livre. Les humbles bateliers, comme Varagwin par exemple, qui va repêcher Manesh dans l'eau au premier chapitre, vont jouer un rôle aussi important que les grands seigneurs. Je trouve que c'est ça qui rend les mondes plus crédibles et plus vivants, c'est quand le peuple est aussi présent. Par ailleurs, j'ai de l'héroïsme une vision très variée, qui sont que les grands héros ne sont pas toujours de grands guerriers, que ce sont souvent des gens qui agissent à un moment avec le cœur parce qu'ils estiment que les choses doivent être faites de telle manière pour que ça soit juste et qu'ils ne se posent pas de questions, ou des gens qui vont affronter leurs propres démons. Ça aussi, c'est une forme d'héroïsme. Donc voilà, c'est... Il y a les humbles sont des héros qui pèsent sur le récit. Je me suis d'ailleurs rendu compte, après avoir fini le tome 1, que finalement, le personnage qui avait le plus influencé le récit par ses actes, souvent improvisé, souvent fait avec le cœur, était Varagwin, le batelier, curieusement.
Je me suis demandé aussi, avec cette remontée du flambe, est-ce que, quelque part, ça ne s'inscrit pas dans ces grands récits mythologiques, plutôt d'ailleurs anglo-saxons, que ce soit que Huckleberry Finn, par exemple, qui est quand même un roman fondateur américain, Mark Twain, et éventuellement aussi une référence à l'un des tomes de la tétralogie de Dan Simmons, où les héros passent sur un fleuve de de planète en planète, et là aussi éventuellement une référence à ce grand roman de Farmer qui est Le Monde du Fleuve. Est-ce que tout ça pour vous c'était dans votre réflexion de départ ou c'est un pur hasard et c'est une thématique générale que, dont vous êtes emparé?
Alors pas tout ce que vous citez, d'abord parce qu'il y a des choses que j'ai pas lues, mais Dan Simmons certainement, sa structure m'a influencé, parce que j'aimais beaucoup le fait de collecter des récits dans un voyage en fait. On peut citer aussi évidemment d'autres fleuves movies. Hein. On pense à Aguirre et la colère de Dieu, mais je l'ai vu après, en fait, et j'ai adoré.
C'est amusant parce que moi, j'y ai pensé tout de suite, évidemment. C'est vraiment là aussi. Justement, c'est une question aussi que je me posais par rapport au choix. Parce que, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas lu ce cycle, et déjà deux volumes, pas ici ce que je découvre le second parce qu'il vient de sortir, donc je vais avoir le plaisir après les imaginales de me plonger dedans. Avec Manège, en tout cas ce premier volume, on voit tout de suite l'ampleur du récit, les enjeux. On voit vraiment l'ampleur du monde, tout ce qui va se développer. Tout de suite, on le sent, dès les premières pages. Et pourtant, il y a de l'enfermement. Ces personnages sont dans un lieu clos, au milieu du fleuve. Et y compris, il ne faut pas trop s'approcher des berges parce qu'il y a des dangers. Donc, quelque part, c'est aussi un huis clos. Au cœur d'un monde sauvage et avec, on devine tout autour, des dangers, des menaces et puis une ampleur considérable du récit qui d'ailleurs va s'étoffer de page en page. Est-ce que c'est volontaire ça, Stéphane Plateau ?
Oui, enfin c'est un petit peu, quelle histoire dois-je raconter ? J'ai un scénario et puis ça m'impose des choses et puis j'en tire le meilleur parti. Ici, effectivement, il y a un huis clos à bord du bateau. D'ailleurs, dans les premières pages du bouquin, dans la grande édition dans la poche, on trouve représenté la gabarre qui est la seule illustration que l'éditeur a bien voulu y mettre. Il ne voulait pas de carte, etc. Mais le bateau, oui, parce que c'est là que ça se passe et c'est important avec le plan, de montrer, avec l'illustration du bateau, de montrer à quel point c'est un lieu clos où il est difficile d'avoir des secrets les uns pour les autres. Et par contre, ce qui permet d'éclater le cadre du récit, donc d'abord, c'est intéressant parce que depuis ce bateau, on jette un œil parfois inquiet, parfois émerveillé sur la forêt autour. On sent dans les frémissements du feuillage couver quelque chose, on sent grandir les forces surnaturelles, peut-être un danger. Et puis d'autre part, ce qui permet d'exploser le cadre de ce récit, c'est le récit dans le récit, c'est quand un personnage se raconte, et là on peut voyager complètement à travers le monde. Donc c'est un huis clos, et en même temps, avec d'énormes fenêtres, puisque le récit dans le récit prend la moitié de chaque volume à peu près, c'est une énorme fenêtre sur le reste du monde, et ça apprend à connaître cet univers, depuis toujours ce lieu clos, excessivement restreint, dans un espace qui est très loin de tout, très loin de la civilisation.
Silène, est-ce que peut-être on peut se replonger dans un autre extrait, peut-être avant ou après, Stéphane Plateau pourrait nous resituer ce passage.
Alors là, on est dans le récit de Manèche, qui raconte ici, donc c'est un peu le début de son histoire, donc c'est le blessé qui dérive sur le fleuve, et ça raconte comment, après avoir été déposé enfant dans un... littéralement dans un panier devant un château ferme, petit seigneur local en bord d'une forêt. Donc il était déposé là par le semeur de feu, un géant solaire, qui apparemment est son géniteur et apparemment ne pouvait pas s'en encombrer, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, ça on le découvrira. Après, le semeur de feu passe toujours la harde noire. Et la harde noire, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des porcs errants. Donc, au Moyen-Âge, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de cochons et que parfois, après des catastrophes, des pestes, etc., il y avait trop de cochons, des villages qui tombaient à l'abandon et les cochons se mettaient à errer et à marauder. Et les cochons étaient réputés dangereux, réputés parfois avoir attaqué ou blessé des enfants, réputés déterrer des cadavres. Horreur au Moyen-Âge. Donc il y a eu beaucoup de procès de cochons et ça m'avait inspiré cette énorme bande de cochons maraudeurs qui sont évidemment menés par un esprit néfaste, mystérieux, qui s'appelle le porcher noir. Et donc, apparemment, cette harde noire cherche toujours à déposer les enfants que le géant semeur de feu dépose devant les maisons des humains. Parce qu'apparemment, Manèche n'est ni le seul ni le premier pour les dévorer, pour les éliminer. On ne sait pas très bien pourquoi. Donc ça, c'est vraiment le premier aperçu qu'on a du mythe. Et donc, c'est l'attaque du château de Marmach par la harde noire.
Au premier signe de l'invasion, les bonnes gens s'étaient claquemurés chez eux avec leur bétail. Si bien que les rues étaient déjà presque désertes quand la harde les envahit et les demeures défendues telles des forteresses. Ce réflexe de prudence assura la sauvegarde de tous les véchards du bourg, mais ne les empêcha pas de connaître un avant-goût de l'enfer. De longues cohortes de pourceaux, couleur d'ébène, s'engouffrèrent dans les rues, la hure basse, le pas lourd de menace. De gros verras aux canines acérées s'en vinrent foyer dans les tas de fumier, retourner les détritus et cogner de leur lourde masse contre les portes closes des maisons. Il en vint bien 100 dans la vague initiale, et leur nombre continua à enfler au fur et à mesure que le soleil s'élevait dans le ciel. La forêt en vomissait toujours davantage, comme si la harde impie lui pesait sur le ventre. Avant la seconde heure du jour, on aurait pu en dénombrer 300 à 400 dans le bourg et les alentours immédiats. Marmac était en état de siège. Chacun priait à voix basse pour que sa porte résiste aux assauts et que le fléau s'en retourne aux profondeurs forestières sans causer davantage de dégâts. Ici et là, les bêtes se regroupaient par bandes de 10 ou 20 pour s'attaquer aux structures les plus vulnérables. Quelques-unes d'entre elles parvinrent à forcer le portail d'une basse-cour où elles se heurtèrent à des dizaines d'oies furieuses. Les deux gros mâles qui avaient ouvert la voie reçurent quelques coups de bec en retour. Mais ils furent bientôt suivis par un tel nombre des leurs que les palissades de l'enclos furent balayées en quelques instants. Ils firent un tel carnage qu'on retrouva par la suite du duvet et des abats dans tout le village. Des plumes blanches maculées, d'éclaboussures sanglantes dérivées sur les eaux du fleuve. Un autre groupe parvint à rentrer dans une réserve, où ils éventrèrent des sacs de grains, rompirent des barils de pommes et ravagèrent tout sur leur passage. D'autres encore pénétrèrent dans le temple et dévastèrent méthodiquement une bonne partie de son ornementation. Ils souillèrent le sol sacré de leur immonde lisier et déchirèrent de leurs dents les tapis d'offrande. D'autres enfin s'attardèrent au cimetière, où ils se mirent à remuer la terre du bout de leurs groins, dans l'espoir d'en déterrer des cadavres encore charnus. À force d'efforts et de sagacité, ils parvinrent à exhumer à moitié la dépouille d'un pauvre diable. Ils lui dévorèrent un bras jusqu'à l'épaule, mordirent à pleines dents dans ses joues mortes et rongèrent ses os jusqu'à les briser. Ils frappèrent et frappèrent encore contre les portes des granges et des demeures. Ils se pressèrent contre elles jusqu'à les faire ployer et les griffèrent de leurs canines cruelles. Ils firent hurler les bébés et les chiens de terreur ou de rage, et bien des hommes adultes perdirent courage devant l'écho de leur fureur.
Stéphane ? Ce ne sont que les prémices de l'attaque sur le village. Après, ils vont être reçus au château par des hommes en armure. Voilà.
Oui, c'est quand même une scène. On ne sait pas si c'est... Enfin, on se devine puisqu'on a ce porcher noir. Mais les mystères s'accumulent. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une révélation, qu'on apprend quelque chose, en fait, d'autres mystères s'accumulent. Et quelque part, l'univers grandit au fur et à mesure de ces différents mystères. On a des bribes d'informations, mais le plan d'ensemble n'apparaît pas encore au lecteur, qui évidemment tourne les pages pour en savoir plus. C'était là aussi une construction volontaire, Stéphane Plateau.
Alors, moi, j'aime beaucoup quand le lecteur est actif. J'aime bien vous faire réfléchir, j'aime bien vous faire chercher. Ceux qui ont lu le tome 1 ou qui ont commencé le tome 2, vous aurez peut-être déjà vent de nouveaux mystères qui s'ouvrent dans le bouquin, d'une identité à découvrir notamment. Il y a moyen de deviner, il y a des gens qui l'ont déjà fait, il y a moyen de se tromper aussi. J'aime bien que vous puissiez chercher et réfléchir, et notamment dans la construction de l'univers. Il y a moyen de deviner, c'est pas évident. mais il y a déjà des gens qui ont trouvé. C'est un univers qui s'explore et je le livre par petites touches. C'est un peu à vous de le reconstituer dans votre tête. C'est vraiment un univers que vous allez devoir intégrer, incorporer dans votre tête. Moi, j'ouvre des petites fenêtres de plus en plus grandes sur ce monde. En les ouvrant par petites touches, j'espère le rendre magique. Et puis, c'est un peu à vous aussi de reconstituer cette vaste toile dans votre tête pour venir un petit peu rêver avec moi dans ce monde.
Dans Manège, dans la série Sentier des Astres, il y a de la violence, indéniablement, et vraiment une violence qu'on sent, à la fois qui est sourde, dans certains cas, qui n'est pas clairement définie. On le sent lorsqu'on remonte. La menace est longuement présente avant que des choses se déclenchent. Comme ça, on a peur un peu plus longtemps, j'imagine. Et puis, il y a quand même une façon de traiter la violence que je trouve extrêmement intéressante. Dans ce personnage dès le début, qui est donc hissé du fleuve, sur lequel on s'interroge, est-ce un simple blessé? Est-ce un atout? Pourquoi? Est-ce un risque surtout? Est-ce un espion? Mais pourquoi dans ce cas-là il est aussi blessé? Enfin bref. Et le capitaine, entre autres, veut savoir, veut interroger. Et on sait bien que des hommes de guerre, des hommes violents, des hommes armés, parfois ont des façons d'interroger. Comment on appelle ça déjà? Oui, la torture. Et c'est évidemment la proposition qui est faite par le capitaine, qui est torturé, le capitaine qui propose.
C'est plutôt Mia.
C'est Mia, oui. Ouais. De proposer de torturer le prisonnier. Et finalement, le barde va trouver une autre façon de faire, qui est de le faire parler. En gros, qui est d'en faire un récit. Ce qui fait qu'à la fois, on a un enjeu de découverte, c'est-à-dire est-ce qu'on va savoir enfin pourquoi il a été blessé, qui il est, qu'est-ce qu'il veut, est-ce qu'il représente un danger pour l'expédition, et si oui, lequel. Et en fait, le barde va progressivement essayer de faire lâcher les bribes. Mais dit-il la vérité ? D'abord. Et puis pendant ce temps-là, le temps gagne du temps, parce que c'est long le récit. Et puis dans le récit, il y a des éléments chassés qui ne sont pas vraiment des réponses aux questions. Certains s'impatientent. Alors enfin, on va le passer, non pas la baignoire, puisqu'on est sur un fleuve, mais voilà, est-ce qu'on va le torturer ou est-ce que finalement, on va finir par lui arracher, par des méthodes douces, un aveu ? Qui est-il ? Que fait-il ? Est-il un danger ? Stéphane Plateau.
Alors oui, d'abord, ce qui est intéressant, c'est que les enfants solaires sont incapables de mentir. Les enfants de géants solaires disent toujours la vérité. D'autre part, il y a la relation qui se noue entre le barde et le bâtard est quelque chose qui me passionne parce que voilà deux hommes qui vont se livrer à cœur ouvert, qui vont se raconter de façon parfois très intime, échanger des souvenirs, surtout le bâtard qui parle, mais enfin, voilà, il y a une relation très directe d'homme à homme, il y a une amitié qui se noue, mais pendant longtemps, à cause sans doute de ce que les uns et les autres ont à cacher et des mesures de prudence dont ils ont besoin l'un et l'autre dans leur histoire personnelle, dans leur expédition, peut-être dans l'histoire personnelle de Manèche, ils jouent avec les cartes retournées sur la table. Et donc, il est impossible de savoir si à un moment, quand ils vont retourner ces cartes, tout va bien se passer ou si ça va être la catastrophe. Mais donc, c'est voilà, une amitié qui se construit sur des bases incertaines.
Là aussi, les rapports entre les personnages, la psychologie des personnages, on la découvre vraiment progressivement et beaucoup autour de justement l'articulation de l'interrogatoire de ce personnage. Les autres réagissent à cette situation. Ça aussi, je trouve, Stéphane Plateau, c'est très intéressant.
Oui, c'est impossible de ne pas faire réagir les autres personnages, les personnages secondaires sur le bateau. C'est tellement un monde clos, c'est tellement un huis clos, la présence de cette personne est tellement interpellante qu'il ne peut qu'y avoir des rumeurs qui courent dans l'équipage, des questions qui se posent, qui circulent.
Justement, le rapport entre les personnages principaux et les personnages secondaires, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et dans ce que vous disiez au début, c'est-à-dire c'est important, même s'ils n'ont pas le rôle central, que les bateliers et d'autres, le peuple s'exprime, soit présent en tout cas dans le roman. Et ça, je trouve que dans les romans de fantasy, en tout cas jusqu'à une date récente, c'était assez rare. C'était assez rare. Le roman de fantasy, et en tout cas dans sa première mouture, surtout la fantasy épique, est quand même une littérature qui donne la part belle aux chevaliers, aux princesses, aux princes, aux rois, aux empereurs, aux ennemis des empereurs, aux héros, aux guerriers. Enfin, vous pouvez prendre David Gemmell, plein d'autres. On est quand même dans cette héroïsation et souvent masculine. Là, on est dans un autre contexte. Les personnages ne sont pas tous des guerriers. Il y en a. Mais même ceux-là sont intéressants. Et la violence n'est pas la seule méthode, y compris quand on est dans le contexte d'une guerre civile. Ça, j'ai trouvé qu'il y avait là... Peut-être que c'est aussi pour ça que vous êtes le coup de cœur, la qualité d'écriture, l'ampleur du récit, la structure du livre, le fait qu'on s'ennuie jamais, qu'il y a une très belle écriture. Aussi cette idée de faire entrer le peuple quelque part et d'entendre la voix du peuple dans un roman de fantaisie, ça n'était pas si fréquent dans la fantaisie.
Oui, tout à fait. En même temps, les guerriers sont bien présents. La violence chevaleresque notamment arrive... Elle est présente, elle est narrée, mais elle doit rester suffisamment rare pour être justifiée et elle marque d'autant plus, je pense, quand elle éclate. Donc, pour ça, je suis un peu dans la lignée d'un George Martin où la violence n'éclate pas souvent, où on la sent souvent se préparer à monter, mais ça pète rarement, mais quand ça pète, ça fait très mal.
Ça me fait penser à Stanley Kubrick. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont vu les films de Stanley Kubrick. Moi, ce qui m'a toujours énormément frappé chez Kubrick, et je retrouve ça dans la façon de raconter, évidemment en littérature et non pas au cinéma, c'est les choses qui se préparent, etc. Et ce surgissement extrêmement violent, extrêmement brutal et inattendu, alors qu'en fait on l'attend depuis longtemps, de Kubrick, je pense à des tas de films. Est-ce que c'est ce genre de choses que vous aimez mettre dans un roman ?
Ah, moi j'aime bien, oui. C'est-à-dire que j'ai envie de raconter des histoires qui soient réalistes, et la violence est quelque chose de très dur et de très dévastateur. Et si je mettais trop de scènes de violence et de batailles et de combats dans mon livre tout en restant réaliste, je crains fort que je n'ai plus beaucoup de personnages en vie à la fin, parce que chaque bataille est un risque réel pour les personnages. Même si dans certains aléas, ils s'en tirent tous, eh bien, il y a quand même des pots cassés. Et les conséquences de ce combat peuvent durer longtemps, parce que la moindre blessure peut être un danger, peut être longue à traiter, peut être hasardeuse à traiter. Donc tout ça est difficile à gérer. Donc il y a plus de combats dans le tome 2. Il y a des scènes vraiment de bataille. Je tenais aussi à casser un petit peu le mythe un petit peu en partie de ce combat qui est plus héroïque à l'époque du Moyen-Âge, où les hommes, la valeur des hommes compte beaucoup plus qu'aujourd'hui, où tu es sous la bombe ou tu ne l'es pas, grosso modo. Pas de chance ou coup de chance. Mais en fait, le matériel et l'armement comptaient déjà beaucoup au Moyen-Âge. Il y avait déjà une grande course aux armements. Et on pourra sentir, d'ailleurs, dans les scènes de combat, le poids de cet armement, le fait de posséder un équipement adéquat ou pas et les avantages que ça donne.
J'avais l'occasion de croiser une personne, devenue une amie, qui avait eu l'occasion de faire la guerre, la vraie, voilà, comme pour l'armée française, dans les commandos, et ensuite de façon plus indépendante, comme on dit, Blackwater, enfin privée. Et discuter, après avoir décroché avec tout ça, avec cette violence, on discutait littérature, lisait un roman, un recueil qu'avait dédicacé, et c'était très intéressant parce qu'une personne dit « Oui, je crois que tu nous parles, je crois que je comprends ce qu'est la guerre. » Et l'autre, qui l'avait faite, regarde et lui dit « Non, tu ne peux pas comprendre, il te manque le bruit et l'odeur. » C'est exactement ça, Stéphane.
Moi, j'aime bien travailler sur le bruit et l'odeur, justement. J'ai pas une très bonne mémoire visuelle. Par contre, je suis très, très auditif, parce que je suis musicien, et très olfactif, très tout dans le toucher. J'aime bien que mes descriptions partent aussi là-dedans. Dans le tome 2, il y a des voyages dans l'autre monde, réel ou onirique, vous verrez bien. Mais j'ai été très peu visuel dans la description parce que ça s'est fait souvent, des descriptions de l'autre monde. Par contre, c'est plus olfactif, plus auditif, mais surtout charnel. C'est un voyage proprement charnel où le décor se marque plus dans le corps du visiteur qu'autre chose.
J'ai aussi un petit peu la réflexion de Jean-Claude Duniac, un écrivain, entre autres un romancier intéressant, mais il en a fait peu de temps, mais un remarquable novelliste, et qui disait souvent aux auteurs français, il vous manque, attention, utilisez tous vos sens quand vous racontez une histoire. Ce n'est pas parce que c'est du papier, de l'encre et que c'est le lecteur qui l'imagine. Il faut que le lecteur sente les choses. Il faut que le lecteur entende les choses. Il faut que le lecteur voie les choses. Bref, utilisez tous vos sens. Et souvent, l'auteur est limité. Ça, c'est une leçon que vous avez retenue, Stéphane Plateau.
Oui, ou ça m'est venu naturellement. Mais c'est effectivement quelque chose que j'intègre beaucoup. Oui. Je choisis le sens qui va être mis en avant selon la scène.
C'est votre métier aussi, vos métiers précédents, qui vous, je dirais, votre formation d'historien qui vous pousse à ça. Est-ce que c'est votre goût naturel ? Est-ce que c'est la référence à la mythologie ? Ou est-ce que c'est, pour ce goût du peuple aussi, par exemple, votre passé d'éducateur ? Et vous l'êtes encore, il me semble, en tout cas, il n'y a pas si longtemps.
Oui, donc je suis encore travailleur social. Quand on est écrivain, on est souvent obligé de garder un métier, en tout cas pendant longtemps, un second métier. Ceux qui font le choix de s'en passer, pour la plupart, font aussi le choix d'une vie relativement sommaire au niveau des moyens matériels. C'est un métier qui reste... alors c'est difficile parce qu'il faut pouvoir gérer les deux en même temps et c'est très chronophage. Par contre, c'est un métier qui est très nutritif pour mon écriture, tout comme mes études d'histoire ont été évidemment très nutritives pour mon écriture, parce que ça me permet de rester très sensible et de porter un regard important sur les drames humains, sur les difficultés sociales, etc. Ce qui fait qu'il y a dans la tétralogie des éléments, à la fin du tome 2, beaucoup, dans le tome 3, on va en avoir vraiment beaucoup plus, qui touche presque à la social fantasy, si je puis me permettre d'inventer un style, un sous-genre. Mais on va beaucoup s'intéresser aux marginaux des grandes villes, on va parler des minorités, on va parler de l'oppression de ces minorités, on va parler de la justice des marginaux, de la justice à deux vitesses. Enfin voilà, c'est un peu tout ça. Et là, c'est à la fois mon métier me nourrit affûte ma sensibilité là-dessus, et notamment pour essayer de trouver des personnages qui soient justes. Donc, j'ai aussi un métier qui interroge beaucoup la confiance en soi, l'image de soi, la représentation du monde. Tout ça, ça m'aide à, peut-être sans doute, les gens que je rencontre dans mon travail au quotidien me permettent sans doute d'affiner mon sens des personnages. Puis bien sûr, les études d'histoire aussi sont l'occasion de replonger dans des livres sur les marginaux au Moyen-Âge qui m'inspirent beaucoup et me livrent sous les yeux des mini-drames où il n'y a presque qu'à puiser, quoi.
On a beaucoup parlé de Manet, c'est normal, c'est le début du cycle, c'est l'entrée dans votre monde. Peut-être que Silène va nous proposer cette fois-ci un petit extrait, voilà, petit extrait de Shakti, le deuxième volume de la série Les Sentiers des Astres.
Alors là, on est dans le récit de vie de la courtisane. Donc la courtisane, elle vient d'une île du Grand Nord qui s'appelle le Fintami. Elle est fille d'une châtelaine chamane. Vraiment dans le Grand Nord, c'est un peu la Laponie, si vous voulez, ou un peu l'Islande, c'est un peu entre les deux. Avec sa mère, Nayolé, seigneur du Harfang. C'est une femme seigneur. Il faut savoir que dans cette île, contrairement au royaume de l'héritage, les femmes peuvent être seigneurs, chefs d'entreprise, posséder leurs biens. Si elles sont l'aînée, c'est elles qui héritent du pouvoir. Malheureusement, par la suite, la courtisane, enfin Shakti, va émigrer dans un pays où ce n'est pas du tout le cas. Elle va se le prendre dans la figure. Donc, la question des droits des femmes fait partie des thématiques qui vont être traitées dans le tome 2 et surtout dans le tome 3 aussi. Mais là, sa mère, c'est un personnage féminin que je voulais, on en parlait hier, endort un peu des clichés. C'est une femme ronde qui assume ses rondeurs, épanouie, exubérante, d'un certain âge évidemment, mais qui aime croquer la vie, qui d'ailleurs a des amants, qui d'ailleurs aime bien boire un coup. Et là, il se fait qu'au château, il y a un invité qui est plutôt de l'âge de la jeune fille, qui s'appelle d'ailleurs à ce moment-là Nizu. L'invité est un beau jeune homme de l'âge de Nizu. Nizu, évidemment, commence à entretenir une relation avec ce jeune homme, mais la mère, tout à sa soulographie, ne s'en rend pas toujours bien compte et, un peu pataude, se laisse aller à ses penchants, ce qui doit être très embarrassant pour la jeune fille.
Quand la dame du Harfang sortait d'une journée difficile, elle éprouvait quelquefois le besoin de se défouler. Dans ces cas-là, elle ne valait guère mieux que le père de Meijo. Je savais d'avance comment se déroulerait le dîner. Elle s'adonnerait joyeusement au siavo, perdrait toute retenue, et la soirée dégénérerait pour finir en longue diatribe bruyante et enflammée. Naturellement, elle s'est fait un devoir d'honorer mes craintes. Ce soir-là, non seulement elle s'est saoulée sans vergogne, mais en sus, elle s'est mise en tête d'aguicher mon Meijo, oublieuse de son âge et inconsciente de nos liens. Cela m'agaçait prodigieusement. Je me sentais piétinée dans mon propre jardin, impuissante à riposter. Elle s'est même permis de poser sa patte sur la cuisse de mon galant, la catin, tout en prétendant verser une nouvelle rasade argentée dans son gobelet. « Tiens, mon joli, bois, il y a de la vie à célébrer, et que pisse le siavo !» Comme il s'est forcé de refuser la goulée, j'ai volé à son secours. « Yes, laisse-le tranquille, Maïbo. Meijo a besoin de toute sa lucidité. Demain, il m'accompagne en forêt. » Ma matrone a relevé le menton avec dédain. « Que dis-tu là, ma toute petite donzelle ? Tu n'es pas son échanson, que je sache. Ce garçon meurt de soif, et la soif, t'y connais rien. Laisse-moi faire. » Et de rechef, elle a soulevé sa gourde, puis tenté de caresser du doigt les lèvres de Meijo. Et comme ce dernier esquivait plus franchement ses avances, elle a fini par se vexer et retourner contre lui son agressivité. « Et quoi ? Va te coucher alors, petite bite ! À quoi te sert d'être lucide demain ? Tu cherches pas à courtiser la forêt ? Dis-moi, lorsque tu chevauches avec ma fille, dis-tu bien les mots mages ? Hein ? Est-ce que tu grattes la gale au tronc ? Ah ! As-tu seulement béni la trace d'Apou en lui présentant tes respects ? » Elle s'est penchée en avant, un index sentencieux posé sur son petit nez plat. Faut que tu lui fasses du gringue à cette forêt, si tu veux qu'elle te baise un jour. Faut la marivauder, la lécher, la mordiller, la flatter. Son haleine imbibée a contraint mon dame oiseau à prendre du recul. Elle a pris cela pour un aveu de faiblesse et s'est mise à lui ricaner au nez. Ouya, tu vois, si teint tu es, si teint tu restes, étranger à ton peuple. Manizu, elle n'avait pas encore de miche qu'elle courait déjà le liampo. Pardon, lampio. Elle a pris le temps de faire tous ses gestes. Et maintenant, la forêt la connaît bien, hein, ma petite tignasse foutraque. Elle y a bonne réputation, ouais. Chez les choses qui volent comme chez celles qui courent, celles qui rampent, celles qui fuient, c'est celles qui toussent, qui poussent. Et, ohé, elle a jamais commis d'impair, ni vexé personne. n'est-ce pas, ma renarde Gironde ? Et sur ce, il a fallu qu'elle se mette à me peloter affectueusement, avec ce maudit air de complicité surjouée qui redoublait mon supplice. Quant à Meijo, au lieu de répliquer, il a fait ce que font si bien les Firouanes, plier pour ne pas rompre. Il s'est mis à approuver humblement chaque phrase du soliloque maternel, tout en remplissant consciencieusement son gobelet, et de le lui pousser sous le nez, comme ça naturellement, en manière d'excuse. À chaque fois, elle s'en emparait d'un geste autoritaire et le vidait d'une traite. Ah, le bon siavo qui glougloute en gourde, clapote en calice, goulaye au gosier. Comme il est difficile d'arrêter ce flot. L'auteur de mes jours commençait à accuser le coup, l'air de rien. Sa bouche était de plus en plus pâteuse, ses mots gourds. Va falloir mieux t'appliquer, si tu veux faire le firouane, timéjo, tout timéjo, hein, que je t'apprenne. Elle a tapé du gobelet sur la table, s'est levée dans toute sa majesté, s'est frappée la poitrine du poing. Je vais t'aider à devenir un homme, petit con, je vais t'aider, parce que moi, je règne sur tout ça. Se marmonnant, son cul est retombé bruyamment sur son siège. Son avant-bras a fait voler le gobelet, qui a roulé au sol sans se briser, un vrai miracle. L'instant d'après, elle s'abîmait dans ses pensées, les yeux mi-clos et le front bas. Elle a bien tenté de relever le menton, l'œil suspicieux, mais il est retombé de rechef sur son poitrail. Et puis tout son corps s'est mis à glisser mollement sur le côté, et Dame Nayolé, seigneur du Harfang, s'est affalée, vaincue, dans sa cathèdre collante de tout le breuvage renversé.
Ça, c'est un passage, hein, vraiment, et un personnage. Voilà, c'est aussi un petit peu cette façon épique de raconter. Voilà, si vous y tenez beaucoup, ça.
Ah, j'aime bien le côté rablaisien aussi. Voilà. Hein. J'aime bien les guindailles. Je suis belge. Et donc, j'aime bien raconter une bonne guindaille. Voilà. Et puis, c'est beaucoup plus rare de raconter en fantasy un personnage féminin qui se laisse complètement aller à la boisson, comme si c'était interdit aux femmes d'être pochetronne. Donc, mais oui, pochetronnez-vous. Et moi, j'aime beaucoup raconter ça.
Ça donne un malaise au lecteur parce qu'en effet, on voit plus facilement des hommes titubés que les femmes, ça. Hein, voilà, comme s'il y avait une tenue différente des sexes. C'est quand même amusant d'appuyer un peu sur ça, de jouer avec ça.
Voilà, si j'avais lu la scène moi-même avec la voix que j'imagine pour Nayolé, ça aurait été beaucoup plus braillard, beaucoup plus gargantuesque. Voilà, c'est vraiment une femme forte qui parle fort. Personnage qui est un peu plus rare, quoi. Et puis derrière, en arrière-fond de la scène, il y a des choses qui ont dû vous échapper parce qu'elle parle beaucoup de la forêt. En fait, cette forêt est une forêt terriblement codifiée dans laquelle règnent des seigneurs des bêtes comme Apu, le renard, comme Charogne, la croque-carcasse, l'ours, qui est aussi un ours femelle d'ailleurs et qui fait d'ailleurs écho au personnage de la mère dans l'affrontement de la fille avec l'ours comme avec la mère. Dire des mots mages, des poèmes sacrés quand on pénètre dans le domaine de tel ou tel esprit animal. Et puis, il faut faire des courtoisies à la forêt, comme de gratter le tronc des arbres pour enlever la gale, etc., pour y avoir bonne réputation. Et Meijo, donc le jeune homme qui vient d'arriver dans le pays, qui est de sang firouane, donc du sang du pays, est un personnage qui vient de la ville et qui a un peu perdu tout ça. Et il est là aussi pour réapprendre. Et donc, la mère le moque un petit peu, une fois qu'elle est un peu vexée de voir ses avances refusées. Elle le moque pour son ignorance.
L'importance des éléments dans les sentiers des astres, il y a le fleuve, il y a la forêt. Pour le moment, la ville est absente, sinon en toile de fond.
La ville va débarquer dans la fin du tome 2. Elle va être terriblement présente dans le tome 3. Là, j'ai vraiment beaucoup à dire sur la partie urbaine. Alors, elle vient plus tard que je l'aurais voulu. Suite au découpage, mais c'est vraiment une partie qui me démangeait beaucoup. Là, je suis dans l'écriture et je m'amuse énormément. Alors, c'est plus sordide au début, parce que voilà, au début, on va vraiment être plus dans les passages dans la misère et les marginaux, mais après, on va faire un petit peu une ascension sociale, on va remonter un peu toutes les strates sociales d'une ville. On va scanner un peu tout ça.
Dans votre cycle, qu'il s'agit quand même d'un grand cycle, hein, 4 volumes, c'est pas rien. L'écriture, quelle est la part propre de l'écriture par rapport au récit et son articulation avec l'ampleur du récit ?
Alors l'écriture est très importante à la fois pour faire sentir le narrateur, qui est un barde, donc je ne peux pas écrire n'importe comment, ça doit être proche de la poésie orale. En même temps, je ne peux pas me permettre de faire des descriptions en 40 strophes, comme on trouve vraiment dans le Kalevala. Mais voilà, ça reste une influence marquante, et puis c'est très important pour immerger le lecteur. Donc j'ai un style qui est qualifié plutôt riche, ça permet de vraiment de donner des sensations au lecteur qui rendent et notamment les personnages, mais aussi notamment tout ce qui est effet surnaturel, tout ce qui est magique, beaucoup plus puissant et beaucoup plus présent parce qu'on évoque les différents sens. Et si on vous décrit une explosion d'une boule de feu, pour prendre un classique du jeu de rôle et de la fantasy, qu'on vous dit voilà, la boule de feu explose, vous voyez une grande gerbe orangée, ok, vous avez un visuel. Maintenant, si on vous décrit l'onde de chaleur, si vous entendez les craquements, si ces craquettements se prolongent, si l'onde reflue, si on joue sur les autres sens, si votre peau cuit, là, vous allez vraiment sentir la boule de feu.
Le temps passe, on avance dans notre rencontre avec Stéphane Plateau et peut-être qu'on va encore une dernière petite lecture, Silène.
Vous êtes prêts pour une plus longue ? Donc là, on est vraiment dans un moment où le barde se dévoile dans tout ce qu'il a dans ses pouvoirs. Donc je suis assez fasciné par les bardes, étant écrivain et musicien, forcément, il y a toute petite part de projection. Donc le barde, dans ce cas-ci, les personnages sont poursuivis par des forces assez terrifiantes qui se manifestent par des coups de trompe sonores. Dans les basses, ils sont poursuivis par des géants. Et le barde va charmer la forêt de Vientrir en faisant ce qu'on appelle un chant primordial. Un chant primordial, c'est un peu le... Ça va être décrit, en fait, dans le texte. C'est un peu l'ultime sagesse des bardes. Ce sont des récits de l'origine des choses. Et quand on raconte aux choses ou aux éléments leur origine, ils sont charmés et ils se mettent à votre service.
Juste un tout petit mot. J'en profite pour signaler que tu vas lire, toi, cet après-midi aussi, tes propres textes. Et moi, je voulais dire... Je lis ces textes-là, je les interprète comme je l'entends et je pense que ça va être très intéressant pour vous d'aller écouter Stéphane les lire lui-même tout à l'heure dans la bulle du conte.
À 16h, c'est ça.
Voilà. Bon, maintenant je lis. Le dit de Fintan Kalatin. J'aurais voulu agir selon les rites sacrés de l'art, affiner mes sens en musant les mélopées de l'éveil. Mais il n'est déjà plus temps pour de tels préliminaires. Alors je me contente de plaquer un accord pour éprouver l'acoustique du ravin. Les rochers autour de moi réverbèrent mes notes avec une belle ampleur. Chacune d'elles devra être parfaite. Sinon, les forces que je cherche à animer demeureront sourdes à mon appel. Quelque part, hors de la combe, retentit la plainte lugubre des hyènes. Je laisse s'éteindre son écho et mets ce moment à profit pour gratter au rocher un peu de mousse que je me fourre au fond de la bouche. Son goût terreux et complexe s'épanouit sur mon palais, s'insinue dans mes cloisons nasales et se diffuse pour tapisser toute la face intérieure de ma boîte crânienne. Mon âme dormante s'ébroue, elle s'accorde au ciel et aux racines. Du bout des doigts, j'effleure les cordes du sitar, j'égrène une première harmonie. Instantanément, le son éveille en moi d'autres saveurs, celles de l'humus et de l'écorce pourrissante, des champignons et des aiguilles encore riches de sève. Je les accueille avec ferveur, les laisse me boiser les intérieurs. Je bouffe du Vientrir à m'en gaver les sens. « Presse-toi, Fintan !» graillonne Père Douan, les poings crispés sur la manche de sa hache. Je repousse sa voix loin de ma conscience, fais le vide pour me consacrer entièrement à l'instrument posé en travers de mes genoux. Je me love autour de sa coque, glisse mes doigts sur son bas-ventre et commence à jouer pour de bon. Les chants primordiaux, c'est l'or mystique des bardes. Nous passons la moitié de nos vies à les rechercher et l'autre moitié à les maîtriser. Ils sont les poèmes originels, les tout premiers qui furent faits par le verbe et la note, quand l'homme n'était encore qu'une bête balbutiante. Ils narrent les primes aurores du monde, l'émergence des forces élémentaires et ces temps mythiques où les planètes emplissaient le ciel de leurs orbes gigantesques. Le chant de l'océan, le chant du feu, les séries de la lune, la geste des bêtes et celle de la naissance du fer. Ils n'ont pas changé d'un seul soupir depuis des siècles, sans doute des millénaires. Aujourd'hui, seuls les plus sages aèdes peuvent encore les interpréter dans leur forme runique. Mais ils ne les enseignent qu'à ceux qu'ils jugent dignes. Les secrets des origines ne doivent pas être révélés aux profanes. Car celui qui connaît la source d'une chose acquiert du pouvoir sur cette chose et peut en faire son allié. À condition que les mots justes soient connus. À condition que l'exécution soit parfaite jusqu'à la plus subtile harmonique. J'étais perdu mon tapis à musique, emporté par la jument. C'est sur un rocher humide que je trône, un troubadour indigent. Mon instrument est à peine échauffé et j'ai du mal à maîtriser le tremblement de mes doigts. Mais j'ai désespérément besoin de l'aide de la forêt. Alors je caresse mes cordes et j'entreprends de lui remémorer ses aubes lointaines pour la séduire. J'entonne donc le chant de la sève et de l'aubier. J'évoque la chute du chêne primordial et les merveilles qui fleurirent autrefois sur son cadavre pourrissant. La sylve d'avant la sylve, aux couleurs et senteurs oubliées, la seule qui contempla les astres dans toute leur plénitude avant qu'ils s'effacent dans la nuit. C'est la première fois que ma voix s'élève dans la grande boréale. Je sens les épicéas frémir et tourner leur conscience vers moi. Ils s'étonnent de voir une si maigre bête chantonner une si grande chose. Leurs âmes se laissent prendre à mes rimes, elles s'emplissent de mes mots. À peine éveillé le souvenir des splendeurs originelles, j'en romps la grâce d'un accord dissonant. Je clame la venue de la glace, la lame blanche qui fauche tout, la fin de la première ère et le trépas des premiers poussés. Toute vérité qui serait difficile à croire si elle n'était sertie en ces vers. Je muse un peu le long sommeil, l'empire pesant de la mort blanche, laissant mon sitar parler seul. Mes arpèges s'enroulent en cycle lent, la mélancolie s'empare de l'écorce, je laisse les notes mourir dans le silence, puis je romps ce silence de mon dit. Je chansonne le retrait du grand froid et l'éveil des graines endormies sous la terre. Je célèbre la naissance de la seconde ère. Le boyau vibre et le bois s'en délecte. L'air frémit au creux du sitar. Je loue la génération du renouveau, ardente, éphémère, si rapide à pousser et si prompte à mourir. Je dis sa quête de soleil, je pleure sa chute et son trépas. Mes strophes se répandent dans les feuillages alentour. Les épicéas se les murmurent les uns aux autres. Bientôt, la pessière tout entière frissonne de mon chant.
Voilà, c'est presque une conclusion. Je voulais quand même, avant qu'on confirme ce café littéraire, cette rencontre avec notre coup de cœur 2016, Stéphane Plateau, qui nous dise vraiment en une minute un petit mot sur Dévoreur, qui est une novella ou un court roman, comme on dirait en France, qui est indépendant du cycle. Pourquoi avoir écrit, alors que le cycle n'est pas terminé, un petit livre qui nous parle de monstres, d'ogres. Voilà, pourquoi cette petite escapade au sein de votre cycle, Stéphane Plateau ?
Parce que j'avais commencé à l'écrire avant Manège, parce que c'est un autre regard sur mon univers, parce que c'est une histoire que j'avais envie de finir et d'écrire, parce que ma fille m'avait réclamé que je termine l'histoire de l'ogre. Et donc voilà, c'est un roman qui se passe aussi un peu dans un huis clos, dans des montagnes, qui évoque un peu les Cévennes, avec des singes en plus, sur la petite touche hindoue, et qui raconte l'étrange transformation de Vidal, brave éleveur d'ânes, père de famille jovial, en un autre type d'être, un monstre de conte de fées bien connu, sous l'influence d'une planète qui brille trop fort au-dessus de sa demeure et uniquement au-dessus de sa demeure. Et comme il s'agit du Dévoreur, qui est un astre particulièrement néfaste, c'est pas bon signe. Donc voilà, c'est un peu une revisite du mythe de Cronos. Ça commence comme un récit d'horreur fantasy, c'est presque Lovecraftien au départ. Et puis c'est un vrai dialogue avec le monstre, mais qui interroge en même temps des thèmes tels que la paternité ou la place qu'on laisse aux générations futures.
Eh bien voilà, vous avez l'occasion de rentrer dans l'œuvre peut-être par ce petit roman Dévoreur et puis plonger dans le cycle des Sentiers des Astres au Mouton Électrique, Manèche et Shakti. Et comme moi, vous serez vraiment impatient de continuer à découvrir cet univers. Le coup de cœur 2016, vraiment un très très bel écrivain. Merci Stéphane Plateau.